Un premier obstacle était qu'après Charles V, la France, si on veut employer le vocabulaire de Montesquieu, a cessé d'être une monarchie pour tomber dans l'état de despotisme, dont elle n'est sortie qu'au XVIIIe siècle. Nous trouvons aujourd'hui tellement naturel de payer des impôts à l'État que nous n'imaginons pas au milieu de quel bouleversement moral cette coutume s'est établie. Au XIVe siècle, le paiement des impôts, excepté les contributions exceptionnelles consenties pour la guerre, était regardé comme un déshonneur, une honte réservée au pays conquis, le signe visible de l'esclavage. On trouve le même sentiment exprimé dans le romancero espagnol et aussi dans Shakespeare. Cette terre a fait une honteuse conquête d'elle-même. Citation de Richard II, acte 2, scène 1. Charles VI, enfant, aidé de ses oncles par l'usage de la corruption et d'une atroce cruauté, a brutalement contraint le peuple de France à accepter un impôt absolument arbitraire, renouvelable à volonté, qui affamait littéralement les pauvres et était gaspillé par les seigneurs. C'est pourquoi les Anglais de Henri V furent d'abord accueillis comme des libérateurs, à un moment où les Armagnacs étaient le parti des riches et les Bourguignons celui des pauvres. Le peuple français, courbé brutalement et d'un coup, n'eut plus ensuite, jusqu'au XVIIIe siècle, que des secousses d'indépendance. Pendant toute cette période, il fut regardé par les autres Européens comme le peuple esclave par excellence, le peuple qui était à la merci de son souverain comme un bétail. Mais en même temps, s'installa au plus profond du cœur de ce peuple une haine refoulée et d'autant plus amère à l'égard du roi, haine dont la tradition ne s'éteignit jamais. On la sent déjà dans une déchirante complainte de paysans du temps de Charles VI. Elle dut avoir une part dans la mystérieuse popularité de la Ligue à Paris. Après l'assassinat de Henri IV, un enfant de 12 ans fut mis à mort pour avoir dit publiquement qu'il en ferait autant au petit Louis XIII. Richelieu commença sa carrière par un discours où il demandait au clergé de proclamer la damnation de tous les régicides. Il donnait comme motif que ceux qui nourrissaient ce dessein étaient animés d'un enthousiasme bien trop fanatique pour être retenus par aucune peine temporelle. Cette haine atteignit son degré d'exaspération le plus intense à la fin du règne de Louis XIV. Ayant été comprimée par une terreur d'intensité égale, elle explosa, selon la coutume déconcertante de l'histoire, avec 80 années de retard. Ce fut ce pauvre Louis XVI qui reçut le coup. Cette même haine empêcha qu'il pût y avoir vraiment une restauration de la royauté en 1815. Aujourd'hui encore, elle empêche absolument que le comte de Paris puisse être librement accepté par le peuple de France, malgré l'adhésion d'un homme comme Bernanos. À certains égards, c'est dommage. Beaucoup de problèmes pourraient être ainsi résolus. Mais c'est ainsi. Une autre source de poison dans l'amour des Français pour le royaume de France est le fait qu'à chaque époque, parmi les territoires placés sous l'obéissance du roi de France, certains se sentaient des pays conquis et étaient traités comme tels. Il faut reconnaître que les 43 qui en 1000 ans firent la France ont souvent mis à cette besogne une brutalité digne de notre époque. S'il y a correspondance naturelle entre l'arbre et les fruits, on ne doit pas s'étonner que le fruit soit en fait loin de la perfection. Par exemple, on peut trouver dans l'histoire des faits d'une atrocité aussi grande, mais non plus grande, sauf peut-être quelques rares exceptions, que la conquête par les Français des territoires situés au sud de la Loire au début du XIIIe siècle. Ces territoires, où existait un niveau élevé de culture, de tolérance, de liberté, de vie spirituelle, était animé d'un patriotisme intense pour ce qu'il nommait leur langage, mot par lequel ils désignaient la patrie. Les Français étaient pour eux des étrangers et des barbares, comme pour nous les Allemands. Pour imprimer immédiatement la terreur, les Français commencèrent par exterminer la ville entière de Béziers, et ils obtinrent l'effet cherché. Une fois le pays conquis, ils y installèrent l'Inquisition. Un trouble sourd continua à couver parmi ces populations et les poussa plus tard à embrasser avec ardeur le protestantisme, dont d'Aubigné dit, malgré les différences si considérables de doctrine, qu'il procède directement des Albigeois. On peut voir combien était forte dans ces pays la haine du pouvoir central, par la ferveur religieuse témoignée à Toulouse au reste du duc de Montmorency, décapité pour rébellion contre Richelieu. La même protestation latente les jeta avec enthousiasme dans la Révolution française. Plus tard, ils devinrent radicaux-socialistes, laïcs, anticléricaux. Sous la Troisième République, ils ne haïssaient plus le pouvoir central, ils s'en étaient dans une large mesure emparés et l'exploitaient. On peut remarquer qu'à chaque fois, leur protestation a pris un caractère de déracinement plus intense et un niveau de spiritualité et de pensée plus bas. On peut remarquer aussi que depuis qu'ils ont été conquis, ces pays ont apporté à la culture française une contribution assez faible, alors qu'auparavant, ils étaient tellement brillants. La pensée française doit davantage aux Albigeois et aux troubadours du XIIe siècle, qui n'étaient pas français, qu'à tout ce que ces territoires ont produit au cours des siècles suivants. Le comté de Bourgogne était le siège d'une culture originale et extrêmement brillante qui ne lui survécut pas. Les villes de Flandre avaient, à la fin du XIVe siècle, des relations fraternelles et clandestines avec Paris et Rouen. Mais des Flamands blessés aimaient mieux mourir que d'être soignés par les soldats de Charles VI. Ces soldats firent une expédition de pillage du côté de la Hollande et en ramenèrent de riches bourgeois qu'on décida de tuer. Un mouvement de pitié amena à leur offrir la vie s'ils voulaient être sujets du roi de France. Ils répondirent qu'une fois morts, leurs os refuseraient, s'ils pouvaient, d'être soumis à l'autorité du roi de France. Un historien catalan de la même époque, racontant l'histoire des vêpres siciliennes, dit « Les Français qui, partout où ils dominent, sont aussi cruels qu'il est possible de l'être. » Les Bretons furent désespérés quand leur souveraine, Anne, fut contrainte d'épouser le roi de France. Si ces hommes revenaient aujourd'hui, ou plutôt il y a quelques années, auraient-ils de très fortes raisons pour penser qu'ils s'étaient trompés? Si discrédité que soit l'autonomisme breton, par la personne de ceux qui le manœuvrent et les fins inavouables qu'ils poursuivent, il est certain que cette propagande répond à quelque chose de réel, à la fois dans les faits et dans les sentiments de ces populations. Il y a des trésors latents dans ce peuple qui n'ont pas pu sortir. La culture française ne lui convient pas. La sienne ne peut pas germer. Dès lors, il est maintenu tout entier dans les bas-fonds des catégories sociales inférieures. Les Bretons fournissent une large part des soldats illettrés. Les Bretonnes, dit-on, une large part des prostituées de Paris. L'autonomie ne serait pas un remède, mais cela ne signifie pas que la maladie n'existe pas. La Franche-Comté, libre et heureuse sous la suzeraineté très lointaine des Espagnols, se bâtit au XVIIe siècle pour ne pas devenir française. Les gens de Strasbourg se mirent à pleurer quand ils virent les troupes de Louis XIV entrer dans leur ville en pleine paix, sans aucune déclaration préalable, par une violation de la parole donnée, digne d'Hitler. Paoli, le dernier héros corse, dépensa son héroïsme pour empêcher son pays de tomber aux mains de la France. Il y a un monument en son honneur dans une église de Florence. En France, on ne parle guère de lui. La Corse est un exemple du danger de contagion impliqué par le déracinement. Après avoir conquis, colonisé, corrompu et pourri les gens de cette île, nous les avons subis sous forme de préfets de police, policiers, adjudants, pions et autres fonctions de cette espèce, à la faveur desquels ils traitaient à leur tour les Français comme une population plus ou moins conquise. Ils ont aussi beaucoup contribué à donner à la France, auprès de beaucoup d'indigènes des colonies, une réputation de brutalité et de cruauté. Quand on loue les rois de France d'avoir assimilé les pays conquis, la vérité est surtout qu'ils les ont, dans une large mesure, déracinés. C'est un procédé d'assimilation facile, à la portée de chacun. Des gens à qui on enlève leur culture, ou bien restent sans culture, ou bien reçoivent des bribes de celles qu'on veut bien leur communiquer. Dans les deux cas, ils ne font pas des taches de couleurs différentes. Ils semblent assimilés. La vraie merveille est d'assimiler des populations qui conservent leur culture vivante, bien que modifiée. C'est une merveille rarement réalisée. Certainement, sous l'Ancien Régime, il y a eu une grande intensité de conscience française à tous les moments de grand éclat de la France. Au XIIIe siècle, quand l'Europe accourait à l'Université de Paris. Au XVIe siècle, quand la Renaissance, déjà éteinte ou non encore allumée ailleurs, avait son siège en France. Dans les premières années de Louis XIV, quand le prestige des lettres s'unissait à celui des armes. Il n'en est pas moins vrai que ce ne sont pas les rois qui ont soudé ces territoires disparates. C'est uniquement la Révolution. Déjà, au cours du XVIIIe siècle, il y avait en France, dans des milieux très différents, à côté d'une corruption effroyable, une flamme brûlante et pure de patriotisme. Témoin, ce jeune paysan, frère de Restif de la Bretonne, brillamment doué, qui devint soldat, presque enfant encore, par pur amour du bien public, et fut tué à 17 ans. Mais c'était déjà la Révolution qui produisait cela. On l'a pressenti, attendu, désiré, tout le long du siècle. La Révolution a fondu les populations soumises à la couronne de France en une masse unique, et cela par l'ivresse de la souveraineté nationale. Ceux qui avaient été français de force le devinrent par libre consentement. Beaucoup de ceux qui ne l'étaient pas souhaitaient le devenir. Car être français, dès ce moment, c'était être la nation souveraine. Si tous les peuples étaient devenus souverains partout, comme on l'espérait, la France ne pouvait perdre la gloire d'avoir commencé. D'ailleurs, les frontières n'avaient plus d'importance. Les étrangers étaient seulement ceux qui demeuraient esclaves des tyrans. Les étrangers d'âme, vraiment républicaine, étaient volontiers admis comme français à titre honorifique. Ainsi, il y a eu en France ce paradoxe d'un patriotisme fondé non sur l'amour du passé, mais sur la rupture la plus violente avec le passé du pays. Et pourtant, la Révolution avait un passé dans la partie plus ou moins souterraine de l'histoire de France. Tout ce qui avait rapport à l'émancipation des serfs, aux libertés des villes, aux luttes sociales. Les révoltes du XIVe siècle, le début du mouvement des Bourguignons, la Fronde, des écrivains comme d'Aubigné, Théophile de Viau, Resse. Sous François Ier, un projet de milice populaire fut écarté parce que les seigneurs objectèrent que si on le réalisait, les petits-fils des miliciens seraient seigneurs et leurs propres petits-fils seraient serfs. si grande était la force ascendante qui soulevait souterrainement ce peuple. Mais l'influence des encyclopédistes, tous intellectuels déracinés, tous obsédés par l'idée de progrès, empêcha qu'on fît aucun effort pour évoquer une tradition révolutionnaire. D'ailleurs, la longue terreur du règne de Louis XIV faisait un espace vide, difficile à franchir. C'est à cause d'elle que, malgré les efforts de Montesquieu en sens contraire, le courant de libération du XVIIIe siècle se trouva sans racines historiques. 1789 fut vraiment une rupture. Le sentiment qu'on nommait alors patriotisme avait pour objet uniquement le présent et l'avenir. C'était l'amour de la nation souveraine, fondée dans une large mesure sur la fierté d'en faire partie. La qualité de Français semblait être non pas un fait, mais un choix de la volonté, comme aujourd'hui l'affiliation à un parti ou à une église. Quant à ceux qui étaient attachés au passé de la France, leur attachement prit la forme de fidélité personnelle et dynastique au roi. Ils n'éprouvèrent aucune gêne à chercher un secours dans les armes des rois étrangers. Ce n'étaient pas des traîtres. Ils demeuraient fidèles à ce à quoi ils croyaient devoir de la fidélité, exactement comme les hommes qui firent mourir Louis XVI. Les seuls à cette époque qui furent patriotes, au sens que le mot a pris plus tard, ce sont ceux qui sont apparus aux yeux des contemporains et de la postérité comme les architraîtres, les gens comme Talleyrand, qui ont servi, non pas, comme on l'a dit, tous les régimes, mais la France derrière tous les régimes. Mais pour eux, la France n'était ni la nation souveraine, ni le roi, c'était l'État français. La suite des événements leur a donné raison. Car, quand l'illusion de la souveraineté nationale apparut manifestement comme une illusion, elle ne put plus servir d'objet au patriotisme. D'autre part, la royauté était comme ces plantes coupées qu'on ne replante plus. Le patriotisme devait changer de signification et s'orienter vers l'État. Mais dès lors, il cessait d'être populaire. Car l'État n'était pas une création de 1789. Il datait du début du XVIIe siècle et avait part à la haine vouée par le peuple à la royauté. C'est ainsi que, par un paradoxe historique à première vue surprenant, le patriotisme changea de classe sociale et de camp politique. Il avait été à gauche, il passa à droite. Le changement s'opéra complètement à la suite de la Commune et des débuts de la Troisième République. Le massacre de mai 1871 a été un coup dont, moralement, les ouvriers français ne se sont peut-être pas relevés. Ce n'est pas tellement loin. Un ouvrier âgé aujourd'hui de 50 ans peut en avoir recueilli les souvenirs terrifiés de la bouche de son père, alors enfant. L'armée du XIXe siècle était une création spécifique de la Révolution française. Même les soldats, aux ordres des Bourbons, de Louis-Philippe ou de Napoléon III, devaient se faire une extrême violence pour tirer sur le peuple. En 1871, pour la première fois depuis la Révolution, si on excepte le court intermède de 1848, la France possédait une armée républicaine. Cette armée, composée de braves garçons des campagnes françaises, se mit à massacrer les ouvriers avec un débordement inouï de joie sadique. Il y avait de quoi produire un choc. La cause principale en était sans doute le besoin de compensation à la honte de la défaite. Ce même besoin qui nous mena un peu plus tard à conquérir les malheureuses Annamites. Les faits montrent que, sauf opération surnaturelle de la grâce, il n'y a pas de cruauté ni de bassesse dont les braves gens ne soient capables, dès qu'entrent en jeu les mécanismes psychologiques correspondants. La Troisième République fut un second choc. On peut croire à la souveraineté nationale tant que de méchants rois ou empereurs la bâillonnent. On pense, s'ils n'étaient pas là, mais quand ils ne sont plus là, quand la démocratie est installée et que néanmoins le peuple n'est manifestement pas souverain, le désarroi est inévitable. 1871 fut la dernière année de ce patriotisme français particulier né en 1789. Le prince impérial allemand Frédéric, plus tard Frédéric III, homme humain, raisonnable et intelligent, a été vivement surpris par l'intensité de ce patriotisme rencontré partout au cours de la campagne. Il ne pouvait comprendre les Alsaciens qui, ignorant presque le français, parlant un dialecte tout proche de l'allemand, brutalement conquis à une date en somme récente, ne voulaient pas entendre parler de l'Allemagne. Ils constataient qu'ils avaient pour mobile la fierté d'appartenir au pays de la Révolution française, à la nation souveraine. L'annexion, en les séparant de la France, leur fit peut-être conserver partiellement cet état d'esprit jusqu'en 1918. La Commune de Paris avait été, au début, non un mouvement social, mais une explosion de patriotisme et même de chauvinisme aigu. Tout au long du XIXe siècle, d'ailleurs, la tournure agressive du patriotisme français avait inquiété l'Europe. La guerre de 1870 en avait été le résultat direct, car la France n'avait pas préparé cette guerre, mais elle ne l'avait pas moins déclarée sans aucun motif raisonnable. Les rêves de conquête impériale étaient restés vivants dans le peuple tout le long du siècle. En même temps, on buvait à l'indépendance du monde. Conquérir le monde et libérer le monde sont deux formes de gloire incompatibles en fait, mais qui se concilient très bien dans la rêverie. Tout ce bouillonnement de sentiments populaires est tombé après 1871. Deux causes ont pourtant maintenu une apparence de continuité dans le patriotisme. D'abord, le ressentiment de la défaite. Il n'y avait alors vraiment pas encore de motif raisonnable d'en vouloir aux Allemands. Ils n'avaient pas commis d'agression. Ils s'étaient à peu près abstenus d'atrocités. Et nous avons eu mauvaise grâce à leur reprocher la violation des droits des peuples au sujet de l'Alsace-Lorraine, population en grande partie germanique, à partir de nos premières expéditions en Anam. Mais nous leur en voulions de nous avoir vaincus, comme s'ils avaient violé un droit divin, éternel, imprescriptible de la France à la victoire. Dans nos haines actuelles, auxquelles il y a par malheur tant de causes trop légitimes, ce sentiment singulier entre aussi pour une part. Il a été également un des mobiles de certains collaborateurs de la première heure. Si la France était dans le camp de la défaite, pensait-il, ce ne pouvait être que parce qu'il y avait eu maldonne, erreur, malentendu. Sa place naturelle est dans le camp de la victoire. Le procédé le plus facile, le moins pénible, le moins douloureux, pour opérer la rectification indispensable, est de changer de camp. Cet état d'esprit dominait certains milieux de Vichy en juillet 1940. Mais surtout, ce qui empêcha le patriotisme français de disparaître au cours de la Troisième République, après qu'il eut perdu presque toute sa substance vivante, c'est qu'il n'y avait pas autre chose. Les Français n'avaient pas autre chose que la France à quoi être fidèles. Et quand ils l'abandonnèrent pour un moment, en juin 1940, on vit combien peut être hideux et pitoyable le spectacle d'un peuple qui n'est lié à rien par aucune fidélité. C'est pourquoi plus tard, ils se sont de nouveau accrochés exclusivement à la France. Mais si le peuple français retrouve ce qu'on appelle aujourd'hui du nom de souveraineté, la même difficulté qu'avant 1940 reparaîtra. C'est que la réalité désignée par le mot « France » sera avant tout un État. L'État est une chose froide qui ne peut pas être aimée. Mais il tue et abolit tout ce qui pourrait l'être. Ainsi, on est forcé de l'aimer parce qu'il n'y a que lui. Tel est le supplice moral de nos contemporains. C'est peut-être la vraie cause de ce phénomène du chef qui a surgi partout aujourd'hui et surprend tant de gens. Actuellement, dans tous les pays, dans toutes les causes, il y a un homme vers qui vont les fidélités à titre personnel. La nécessité d'embrasser le froid métallique de l'État a rendu les gens, par contraste, affamés d'aimer quelque chose qui soit fait de chair et de sang. Ce phénomène n'est pas prêt de prendre fin. Et, si désastreuse qu'aient été jusqu'ici ses conséquences, il peut nous réserver encore des surprises très pénibles. Car l'art, bien connu à Hollywood, de fabriquer des vedettes avec n'importe quel matériel humain, permet à n'importe qui de s'offrir à l'adoration des masses. Sauf erreur, la notion d'État comme objet de fidélité est apparue pour la première fois en France et en Europe avec Richelieu. Avant lui, on pouvait parler sur un ton d'attachement religieux du bien public, du pays, du roi, du seigneur. Lui, le premier, adopta le principe que quiconque exerce une fonction publique doit sa fidélité tout entière dans l'exercice de cette fonction, non pas au public, non pas au roi, mais à l'État et à rien d'autre. Il serait difficile de définir l'État d'une manière rigoureuse. Mais il n'est malheureusement pas possible de douter que ce mot ne désigne une réalité. Richelieu, qui avait la clarté d'intelligence si fréquente à cette époque, a défini en termes lumineux cette différence entre morale et politique autour de laquelle on a semé depuis tant de confusion. Il a dit à peu près « On doit se garder d'appliquer les mêmes règles au salut de l'État qu'à celui de l'âme, car le salut des âmes s'opère dans l'autre monde, au lieu que celui des États ne s'opère que dans celui-ci. » Cela est cruellement vrai. Un chrétien ne devrait pouvoir en tirer qu'une seule conclusion. C'est qu'au lieu qu'on doit au salut de l'âme, c'est-à-dire à Dieu, une fidélité totale, absolue, inconditionnée, la cause du salut de l'État est de celle auquel on doit une fidélité limitée et conditionnelle.